Chapitre 7e, c'est l'heure des surprises. Dans la soirée, comme je venais de corriger ma copie, quelqu'un, à l'angle de la rue Richelieu, me mit la main sur l'épaule, familièrement, affectueusement. J'eus peine à reconnaître, sous son déguisement, Martin Numa. Quand je dis déguisement, le mot est exact, bien qu'il dépasse le sens réel du fait. C'est transformation qui conviendrait le mieux. En effet, Martin Numa était vêtu comme tout le monde, sans que rien pût un seul instant attirer le regard. Il portait un costume de ville, sombre, jaquette, chapeau melon, semblable aux centaines d'autres que l'on croisait à cette heure, mais c'est lui-même qui, dans ce costume, s'était modifié. Il l'était, comment, je n'en sais rien. Il s'était diminué de taille, puis engraissé, et portait une moustache courte, soigneusement taillée, comme deux mouches sous le nez. Il avait l'apparence d'un de ces bons noctambules, homme d'affaires, journaliste, homme de théâtre, qui commence à vivre à l'heure où les autres se couchent. Après m'avoir pris le bras, il m'entraîna sur le boulevard Haussmann. Puis nous nous engageâmes dans la rue Thébault. À cette heure, cette rue est à peu près déserte. Cependant, Martin Numa, tout en marchant, regardait avec attention de chaque côté. « Bon, » fit-il au bout d'un moment, « ça va. » Nous débouchions sur la rue Lafayette. Là, il s'arrêta quelques secondes, comme font souvent les gens quand, dans la rue, ils parlent, emportés par leur sujet, ou voulant convaincre leur auditeur, mais tout en parlant, il regardait dans la rue, il étudiait son terrain. Enfin, brusquement, il m'entraîna. La rue Lafayette franchie, nous entrâmes dans la cité d'Antin. La cité d'Antin tourne et comporte plusieurs issues. L'une d'elles se trouve sous une voûte que soutiennent de gros piliers. C'est vers cette issue que nous nous dirigeons. Derrière les colonnes, deux hommes se trouvaient dans l'ombre. Quand Martin Numa les aperçut, il revint sur ses pas et les deux hommes le suivirent. Martin Numa s'arrêta devant la porte d'une maison. Une enseigne, que je pus déchiffrer à la lueur d'un bec de gaz, accrochée sous une croisée, portait « Reconnaissance du crédit municipal ». C'était là, d'après mes souvenirs, que M. Basilescu avait son bureau. Martin Numa sonna et la porte s'ouvrit. Nous entrâmes. En passant devant la loge de la concierge, Martin Numa dit un nom et monta, me tenant par l'épaule pour me guider. Peu après, nous étions devant la porte du bureau de près de M. Basilescu. Martin Numa introduisit une clé dans la serrure de sûreté, puis une autre dans la serrure habituelle, et avec une aisance admirable, il ouvrit. Nous voici dans le bureau. Martin Numa y était venu quand il commença son enquête dès la disparition du garçon de recette Éloi Vidal. Il en connaissait les êtres. Néanmoins, il fit briller une petite lampe électrique et se dirigea, toujours suivi par moi, vers la pièce dans laquelle, derrière un grillage, se tenait M. Basilescu quand il recevait ses clients. Comme il allait y pénétrer, la porte d'entrée s'ouvrit et deux hommes parurent. Martin Numa jeta sur eux un rapide coup d'œil. « Dépêchons-nous, mes amis, » dit-il, « dépêchons-nous. » C'était Prosper et Julot qui venaient seconder le chef. Le roi des détectives et son second se mirent aussitôt à la besogne. « Nous sommes des cambrioleurs, » me dit Martin Numa, « mais des cambrioleurs opérant pour le compte de la police, ce qui s'est rarement vu. » Je savais que Martin Numa, quand il travaillait, n'aimait pas qu'on le dérangeât, qu'on lui posât la moindre question. J'attendis donc qu'il voulût bien me donner quelques nouveaux détails sur cette expédition singulière. Contre son habitude, ce soir-là, Martin Numa était loquace. Il me dit, tout en s'approchant du coffre-fort et en l'ouvrant, « Je viens chercher ici la conclusion de toute cette affaire, la solution du problème de la disparition du garçon de recette Éloi Vidal. Ici ?»« Oui. Depuis le premier jour, j'ai la conviction absolue qu'Éloi Vidal a été attaqué ici. Depuis le premier jour, M. Basilescu est mêlé plus ou moins à cette affaire. C'est chez lui que j'ai vu entrer la dame aux yeux noirs, la jolie fille qui figure sur la carte postale trouvée dans le tiroir du malheureux Éloi Vidal, la commère du petit théâtre, Gabrielle de Bellery. » Je me souvenais fort bien de tout cela. « Mais, » ajouta Martin Numa, « aujourd'hui je veux acquérir la certitude de cela et faire en même temps un coup double. J'ai cette conviction également que le père Stovein a été assassiné par M. Basilescu et ses compagnons. » Je ne pus m'empêcher de sursauter à ces mots. « C'est vous, mon cher Courville, » reprit le roi des détectives, « vous, qui, sans vous en douter, avez changé mes soupçons premiers en définitive conviction. Moi, comment cela, quand ?» Tantôt, au café de la rue de Châteaudun, à la Bourse aux Diamants, je vous ai vu parler à M. Gustave, et j'ai vu le tremblement et l'émotion qui s'emparèrent de M. Basilescu quand il prit place à côté de vous. Comme j'ouvrais des yeux effarés, Martin Numa ajouta, C'est moi qui vous ai versé votre café et qui ai servi le bock de M. Basilesco. » Martin Numa sourit, puis reprit. Tout en observant M. Basilesco, j'ai entendu prononcer des mots que, devant les magistrats, personne ne voudrait plus prononcer pour ne pas être mêlé à cette mystérieuse affaire. Je sais quels sont les derniers clients qui ont traité avec le père Stovein, et je sais quels bijoux le père Stovein a acheté en dernier. Il y a entre autres un bracelet en or d'un très joli travail, pourtant écrit avec des brillants ce mot « recuerdo », qui veut dire « souvenir » en espagnol. On dit que c'est le présent d'un ancien roi d'Espagne à une danseuse. Le bijou a été mis en vente par des héritiers, acheté et revendu au père Stovein ces derniers jours. Le père Stovein a acheté également une broche en forme de couronne de marquis, tout en brillant et ornementée de quelques perles aux fleurons héraldiques. Ces bijoux de grande valeur devaient être en la possession du père Stovein et se trouver dans son coffre-fort. Nous ne les y avons pas découverts. Je viens voir s'ils ne sont pas ici. » Disant ces mots, le roi des détectives ouvrit le coffre-fort de M. Basilesco. Vivement, il le visita. Le coffre-fort contenait quantité non seulement de rouleaux d'or et de paquets de billets de banque, mais, dans des boîtes, soigneusement rangées, des bijoux de la plus grande richesse. Tout à coup, Martin Numa poussa un cri « Les voilà !» Il tira du coffre le bracelet d'or portant le mot « recuerdo » et la broche en forme de couronne de marquis. « Plus de doute, » dit-il, heureux. « Plus de doute, M. Basilesco est le caissier de la bande qui a assassiné le père Stovein. » Martin Numa mit les deux bijoux dans une boîte prise dans le coffre-fort et y ajouta des papiers en tête de la maison d'achat de reconnaissance et il confia le tout à Prosper. « Comme ça, il ne pourra pas nier. Prosper, vous mettrez cela en lieu sûr. » Il poursuivit sa perquisition. Une autre surprise l'attendait. Sur les dernières planchettes se trouvaient des liasses de billets de banque faux. « Ah !» fit Martin Numa. « C'est d'ici que partaient les billets fabriqués dans le souterrain de Notre-Dame de Lorette. » Dans ce coffre se trouvaient quelques papiers, des effets de commerce, des billets soigneusement étiquetés et rangés. Martin Numa les examina. Billets présentés à différentes reprises par Éloi Vidal. Billets portant l'ordre de M. de Krapps, banquier. Allons, allons, c'est la même bande. Nous sommes sur la bonne voie. Marchons, mes amis, marchons. C'est l'heure, ne perdons pas de temps. Il referma la porte du coffre-fort comme il l'avait ouvert, remit tout en ordre dans la pièce et nous entraîna. Peu après, nous étions dans la rue. Un taxi passait, il l'arrêta, me poussa dedans, et sans qu'il ait donné l'ordre au chauffeur, la voiture partait. Prosper et Julot en trouvèrent en même temps un autre, dans lequel ils se jetèrent et qui prit la même direction. Quelques minutes et nous entrions dans la rue Lamartine. Le taxi s'arrêta, Martin Numa sauta sur le trottoir. Il monta la rue Milton, se tapit dans l'ombre d'une porte et attendit quelques instants, inspectant la maison qui faisait un angle avec la rue et la cité Milton. Au coin de la cité Milton, car la rue bifurque et part à gauche en montant, formant une cité qui grimpe, en tournant pour aboutir rue de la Tour d'Auvergne, se tenaient deux braves agents, discutant entre eux de telle façon qu'ils en oubliaient leur promenade à pas cadencés et sonores. Sur la première marche de pierre d'une maison, appuyé contre la porte, plié en deux, dormait profondément un ivrogne ou un de ces malheureux vagabonds de Paris qui pour logis ont les ponts de la Seine ou les bancs des boulevards extérieurs. Mais quand Martin Numa et moi nous passâmes devant lui, ce misérable, qui dormait profondément en apparence de ce sommeil pénible des gens mal couchés, leva la tête, remua un bras, comme pour modifier sa position. « Bien, » fit seulement Martin Numa. Peu après, nous arrivions devant une maison de la cité Milton, au moment où deux locataires de cette maison se présentaient devant la porte. Ces locataires, contrairement à tout ce qui se passe dans toutes les maisons de Paris, ne sonnèrent pas. Ils se servirent d'un passe-partout pour ouvrir la porte, sans réveiller le concierge, et pénétrèrent dans la maison, laissant derrière eux la porte ouverte pour donner passage à Martin Numa, car ces deux locataires étaient Prosper et Julot. De même que le dormeur misérable était Philippe, qui, remis de ses blessures, reprenait aussi son travail. Les alentours de la maison, d'ailleurs, étaient peuplés d'hommes de la brigade de Martin Numa. Nous voici dans l'escalier de cette maison singulière que nous connaissons. Depuis longtemps, un homme de Martin Numa était parvenu à sous-louer un petit appartement dans cet immeuble. La maison ne changeait que peu souvent de locataire. Pour y habiter, il fallait en quelque sorte montrer patte blanche. Pour que cet homme ait eu ainsi asile dans cette maison, il avait dû donner toutes les garanties nécessaires aux principaux locataires, qui étaient les agents mystérieux avec lesquels Martin Huma avait déjà eu partie liée. Cet homme s'était présenté là sous le couvert de l'art. Il s'appelait Fernand et tenait un violon dans l'orchestre du petit théâtre où la jeune femme aux yeux noirs, Gabrielle de Bellerie, était commère dans la revue. Fernand jouait aussi fort bien du piano. La jolie commère eut plusieurs fois recours à son talent pour lui demander de lui faire répéter une chanson, un couplet. Ils étaient devenus bons camarades. Le musicien, un jour, se montra ennuyé et déclara qu'il était obligé de changer de domicile et qu'il n'avait pas de logis en vue, que le temps lui manquait pour en chercher un. Ce fut la commère aux yeux noirs qui lui parla de la maison de la cité Milton, et qui, en bonne camarade, se chargea de voir pour lui si la chose pouvait s'arranger. La chanteuse faisait ainsi coup double. Elle avait sous la main un musicien, un répétiteur, et elle mettait dans la maison un brave homme qui, en aucune façon, ne pouvait gêner les locataires mystérieux. C'était chez Fernand que Martin Huma et ses hommes allaient se réfugier cette nuit, attendre, épier, voir le coup à tenter.